de nos programmes et à la prochaine.
Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du lundi 6 mai 2024, dont voici d'abord les principaux titres. Les électeurs tchadiens se rendent aux urnes pour élire leur président. Déby et Succès Mastra promettent la victoire dès le premier tour.
Ne renonçons donc pas à l'exercice de notre droit d'expression par les urnes sous prétexte que tout est joué d'avance.
Victoire écrasante du parti au pouvoir aux législatives au Togo, contestation de l'opposition face à des allégations de fraude.
Ce qui s'est passé cette année, on n'a jamais vécu ça. C'est qu'on est arrivé à un niveau où les faits et gestes qui sont posés causent un dégoût inimaginable et incalculable.
Arrivée de nouveaux instructeurs russes et matériel militaire au Niger. Appel de l'OSI, l'Organisation de la coopération islamique, à des sanctions contre Israël suite à des allégations de génocide à Gaza. Grand rassemblement de Tibétains à Paris pour dénoncer la venue de Xi Jinping. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Muniteco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, les électeurs sont appelés aux urnes ce lundi pour participer à l'élection présidentielle. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a été proclamé chef de l'État par l'armée il y a 3 ans, ainsi que le premier ministre qu'il a désigné, Succès Mastra, se présentent tous les deux en tant que candidats lors de leurs déclarations respectives samedi. Ils ont chacun affirmé leur intention de remporter cette élection dès le premier tour. Claire Morégebourg.
Les deux dirigeants tchadiens se sont exprimés devant des milliers de partisans pour leur dernier meeting de clôture de la campagne. Au début de cette campagne, il y a 15 jours, tous les observateurs prédisaient une victoire massive du général président, le pouvoir militaire ayant continué de réprimer violemment toute opposition et fait écarter ses rivaux les plus dangereux après que le Conseil constitutionnel eut invalidé la candidature de 10 d'entre eux. Les deux hommes seront aussi opposés à 8 autres candidats, dont une seule femme, aucun ne pouvant espérer grappiller plus de quelques suffrages, car réputé proche ou peu critique du pouvoir, ou peu connu. Vendredi, la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, préoccupée par la situation des droits humains, s'est inquiétée dans un communiqué d'une élection qui ne semble ni crédible, ni libre, ni démocratique, dans un contexte pesant marqué par la multiplication des violations des droits humains.
Le parti du président Faure Gnassingbé a largement remporté les élections législatives du lundi au Togo, comme l'a annoncé la commission électorale ce samedi. Cette victoire permettra au chef de l'État de demeurer au pouvoir conformément à une nouvelle constitution adoptée en avril. Lionel Lunanila Gahim.
L'Union pour la République Unie, le parti présidentiel, a obtenu 108 députés sur 113 selon les résultats provisoires annoncés à Lomé par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Dago Yabré. Le taux de participation a été de 61% selon la CENI. Ces résultats, qui doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle, représentent un triomphe pour le parti du président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 à la suite du décès de son père, resté près de 38 ans à la tête de l'État. Selon la nouvelle constitution, le pouvoir réside désormais entre les mains d'un président du Conseil des ministres, lequel est automatiquement le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce qui est le cas de Faure Gnassingbé, président d'unir. Cette réforme constitutionnelle a été vivement critiquée par l'opposition togolaise et des organisations de la société civile qui dénoncent un coup d'État institutionnel et y voient une manière pour Faure Gnassingbé de se maintenir indéfiniment au pouvoir.
Au Niger, de nouveaux instructeurs russes ont atterri samedi à Niamey, où ils ont effectué de livraisons de matériel militaire dans 2 avions cargo, marquant ainsi la 2e livraison en moins d'un mois après l'arrivée initiale des premiers instructeurs. Cette information a été relayée par la télévision publique nigérienne durant la nuit de samedi à dimanche. Rosine Munezero.
En moins d'un mois, la Russie a affrété 3 vols cargo pour acheminer du matériel militaire divers, faisant venir plusieurs instructeurs de l'armée russe à Niamey, a indiqué Télé Sahel. Le 10 avril, une centaine d'instructeurs russes étaient arrivés dans la capitale, effectuant une première livraison de matériel de défense aérienne. La télévision a expliqué n'avoir pas eu l'autorisation de diffuser l'arrivée du second vol pour des raisons de sécurité nationale. Le troisième vol, en plus du matériel militaire et des instructeurs, transportaient aussi une importante quantité de produits alimentaires pour le Niger, selon la même source. Jeudi, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a indiqué que des soldats russes étaient installés dans une base des forces aériennes nigériennes abritant des soldats américains près de l'aéroport de Niamey. Le régime militaire du Niger a dénoncé en mars l'accord de coopération militaire en vigueur avec les États-Unis, estimant que celui-ci avait été imposé unilatéralement par Washington. Des discussions entre les États-Unis et le Niger sont toujours en cours concernant les modalités du retrait américain.
Le Kenya a annoncé dimanche un nouveau bilan de 228 morts depuis mars dans des intempéries qui ne montrent aucun signe d'accalmie, même si le pays a échappé aux ravages d'un cyclone ayant balayé la veille ses côtes et celles de la Tanzanie. Le cyclone tropical Idaya a balayé ces deux pays d'Afrique de l'Est sans faire de victimes ni de dégâts majeurs, après avoir perdu de sa puissance en touchant terre samedi. La Tanzanie a indiqué dimanche que le cyclone n'en présentait plus de danger pour le pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lors de son sommet à Banjul, l'organisation de la coopération islamique aussi a une fois de plus condamné dimanche ce qu'elle qualifie de génocide à Gaza. Elle a appelé les 57 pays membres à imposer des sanctions à Israël, adoptant ainsi une résolution en son sens. Chérubin Dorsil.
La résolution demande à ses membres d'exercer des pressions diplomatiques, politiques et juridiques et de prendre des sanctions à tous les niveaux, économiques, sportifs, culturels et internationaux, contre Israël. L'OCI appelle également à un cessez-le-feu immédiat, permanent et inconditionnel. En outre, dans son communiqué final, l'OCI appelle à stopper l'exportation des armes et des munitions utilisées par l'armée israélienne pour, selon elle, perpétrer le crime de génocide à Gaza. L'OCI n'a toutefois pas fourni davantage de précisions. Seule une poignée de chefs d'État africains ont fait le déplacement jusque dans la capitale gambienne à l'occasion du 15e sommet de l'OCI qui s'est ouvert samedi. L'immense majorité des présidents des 57 pays membres se sont fait représenter. Ce week-end, l'attention internationale était davantage tournée vers le Caire, où une réunion sur un projet de trêve associé à la libération d'otages dans la bande de Gaza s'est tenue, mais sans avancée concrète. Pendant qu'Israël et le Hamas restent inflexibles après 7 mois de guerre.
Les efforts en vue d'une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas se heurtent à l'inflexibilité des deux camps, une impasse dont les médiateurs internationaux doivent tenter de sortir ce lundi lors d'une réunion d'urgence au Qatar après 7 mois de guerre. L'armée israélienne a continué de frapper le territoire palestinien en début de nuit, faisant 16 morts au sein de 2 familles à Rafah dimanche. Le forum des familles d'otages, une nouvelle fois appelé M. Netanyahou, a accepté un accord qui permettrait une libération des otages. L'armée israélienne a assuré que son opération d'évacuation des habitants de l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, annoncée lundi, ce lundi matin, était temporaire et d'ampleur limitée. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit se rendre cette semaine au Guatemala pour une conférence régionale au sujet des migrations, a annoncé le département d'État dimanche. Sa visite intervient au moment où un nombre record de migrants, en particulier originaires d'Amérique centrale et du Venezuela, tente d'entrer aux États-Unis pour fuir la pauvreté, la violence ou les catastrophes climatiques aggravées par le changement climatique. Entre octobre et février, près de 130 000 Guatémaltèques ont franchi illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique, selon l'autorité frontalière américaine. Les États-Unis cherchent à faire du Guatemala un partenaire au sujet des migrations. Une aide des États-Unis à hauteur de 170 millions de dollars a été annoncée en mars pour soutenir le développement, l'économie, la santé et la sécurité. Quelques 2000 personnes, essentiellement de la communauté tibétaine de France, se sont rassemblées dimanche à Paris pour dénoncer la visite du président chinois en France, pays des droits de l'homme, qui accueille selon les manifestants un dictateur. Le président français Emmanuel Macron entend prôner la réciprocité commerciale et la recherche d'une résolution de la guerre en Ukraine face à un président chinois qui continue d'afficher son soutien à la Russie. De retour pour la première fois en Europe depuis 2019, M. Xi a organisé sa tournée sous le sceau de l'équilibre diplomatique. Après la visite d'État en France et qu'il lui demande depuis un an d'user de son influence pour amener la Russie à la raison, il s'en rendra en Serbie et en Hongrie, deux pays restés proches de Moscou. Les Européens, les États-Unis et le Canada vont célébrer le 6 juin à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, leur alliance historique, alors que la guerre frappe de nouveau le vieux continent. Le président français Emmanuel Macron accueillera le Gotha transatlantique à Omaha Beach, une des 5 plages du débarquement sur laquelle les Américains pris au piège des défenses allemandes subirent de lourdes pertes. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nathalie Barge.
Au Cameroun, les acteurs de la filière des boissons ont été invités à une séance de concertation le 16 mai prochain par le ministre du Commerce, Luc Magloire, à Tangana. Les deux principaux syndicats prévoient d'augmenter les prix des boissons cette semaine à cause, disent-ils, de la multiplication des charges fiscales. La bière et les sodas sont soumis à l'homologation des prix et tarifs par l'administration après soumission de dossiers. Au Nigeria, l'État de Kaduna et Gogol ont lancé une série de formation vidéo sur l'intelligence artificielle en langue Hausa. L'initiative est une composante du programme Arewa Tech for Ladies, mise en œuvre par Gogol et le gouvernement de Kaduna pour former 25 000 femmes et jeunes à l'application entrepreneuriale des technologies numériques. Selon Bloomberg, la compagnie maritime belge va investir 3,5 milliards de dollars dans une unité de production d'hydrogène et d'ammoniac décarboné en Namibie. Le roi Philippe, en visite dans le pays, s'est rendu au port de Walvis Bay, où le groupe a commencé à construire l'an dernier une première station de production d'hydrogène vert. Le nouveau complexe aura une capacité de production de 400 kg d'hydrogène par jour grâce à une centrale solaire de 5 mégawatts.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Élisée Ungpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Eric et bonjour à tous.
On commence avec la Basketball Africa League. Le dernier groupe de la conférence Sahara se tient à Dakar Arena au Sénégal.
Oui, et les Nigériens de Rivers Hoppers, vainqueurs 86-82 des Rwandais d'APR, ont signé leur seconde victoire de suite. Dans le duel des vaincus de la première journée, le club hôte, l'AS One, a battu les Tunisiens de l'US Monastir 76-59. Objectif donc pour ces quatre équipes qui vont s'affronter deux fois, une place pour la phase finale, le top 8 à Kigali au Rwanda. Il faudra pour cela prendre l'une des deux premières places ou alors espérer finir parmi les deux meilleurs troisièmes.
En cyclisme, le Tour du Bénin a pris fin hier avec le Grand Prix de Cotonou.
Un critérium remporté par le Malien Yaya Diallo au pied de l'Amazone. Mais c'est Ashraf Ed Dogmi qui est sorti vainqueur de la 19e édition de ce tour où le suspense a duré jusqu'à la dernière étape. Le Marocain, tenant du titre, a fait coup double. Victoire au sprint à l'issue de la 5e et ultime étape entre Agbayzou et Cotonou. Et le classement général, le maillot jaune qu'il arrache à l'Érythréen Yoel Abteab, qui termine finalement la troisième place derrière l'Algérien Azedine Lagab, classé deuxième.
Élisée, la déception vient côté béninois, dont le premier coureur a fini à la 25e place.
Il s'agit de Rémi Sowou, qui est à plus de 5 minutes du vainqueur. Une contre-performance que qualifie le président de la Fédération béninoise de cyclisme et directeur du Tour, Romiad Razoumé, vraisemblablement déçu.
Moi, je ne suis pas content des prestations des Béninois, je vous le dis clairement, parce que il y a eu des individualités, mais il n'y a pas eu un travail d'équipe. Parce qu'il y aurait eu un travail d'équipe, je pense qu'on pouvait gagner une étape.
Et puis on termine par une note de football en Espagne pour dire que le Real Madrid a remporté son 36e titre de Liga grâce non seulement à sa victoire 3-0 contre Cadiz, mais surtout suite à la défaite du Barça 4-2 à Gironde.
La page des sports signée Élisée Ounkpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, après les militaires hier dimanche, c'est désormais au tour des électeurs civils de se rendre aux urnes ce lundi 6 mai pour choisir leur président pour les 5 prochaines années. Parmi les 10 candidats en lice figurent le chef de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi que son premier ministre Succès Mastra. Cette élection marque un moment crucial dans l'histoire du pays, étant la première depuis le décès du maréchal Idriss Déby Itno il y a 3 ans. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, nous donne un aperçu de la situation depuis N'Djamena.
Après le vote des éléments de force de défense et de sécurité ce dimanche, les électeurs civils, eux, se rendent aux urnes ce lundi pour accomplir leurs devoirs citoyens. Le vote s'ouvre à 7h heure de N'Djamena dans les 26 611 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Les éléments de force de défense et de sécurité sont déployés en nombre dans les différentes provinces du pays. La présence de ces militaires suscite des réactions auprès de certains électeurs. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Bernard Larmé Laguerre, insiste sur la sécurité des citoyens et pour un scrutin sans intimidation.
La Commission nationale des droits de l'homme exhorte les plus hautes autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour garantir davantage la sécurité des personnes et de leurs biens, le libre accès à l'information par tous les moyens de communication légaux, la liberté d'opinion et d'expression des citoyens et surtout l'accès au bureau de vote pour y exercer leurs droits sans aucune contrainte, menace ou intimidation.
Il exhorte l'Agence nationale de gestion des élections à exercer sa mission en toute indépendance et impartialité conformément au code électoral. Dr Arnaud Dikmbaye Nambatana, président de la Société tchadienne de droit constitutionnel, un regroupement de juristes, lance le même message aux membres de l'ANJ et du Conseil constitutionnel.
Compte tenu du principe de l'inamovibilité de leurs membres, ceux-ci n'ont rien à craindre quant à la garantie de leur statut et d'observer scrupuleusement l'impartialité, la neutralité et l'objectivité dans leur travail. La jeunesse compte sur leur conscience pour sortir notre pays de la conquête du pouvoir par la lutte armée il y a plus d'un demi-siècle. Aux partenaires extérieurs et aux observateurs internationaux de considérer les attentes du peuple et l'avenir de la jeunesse qui ne saurait être sacrifiée au palace de leurs propres intérêts.
Le prélat tchadien se réjouit que cette élection ne tombe pas un dimanche comme par le passé et plaide pour une élection libre et transparente. Monseigneur Edmond Djitangar, archevêque métropolitain de N'Djamena.
Ne renonçons donc pas à l'exercice de notre droit d'expression par les urnes sous prétexte que tout est joué d'avance. Je réitère notre espérance de voir les citoyens s'exprimer par un vote libre et une proclamation transparente des résultats. Je demande à chaque fidèle catholique engagé dans ces élections à quelque titre que ce soit, d'être exemplaire dans son comportement et d'agir en citoyen libre face aux pressions morales, aux menaces et à la corruption.
L'entente des églises et missions évangéliques du Tchad exhorte les citoyens à accomplir leurs droits citoyens dans le calme et de se mettre à l'abri de tout propos susceptible de pousser à la haine, à la violence et à d'autres actes pouvant troubler la paix et la cohésion sociale. André Kodumajingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les résultats préliminaires des élections législatives du 29 avril 2024 au Togo ont été annoncés par la Commission électorale nationale indépendante et révélant une victoire écrasante du parti au pouvoir qui remporte 108 des 113 sièges disponibles. Les partis de l'opposition n'ont réussi à obtenir que 5 sièges. Des allégations d'irrégularité et de fraude importantes sont émises par ces derniers. De Lomé, notre correspondant Kossi Woussou.
Pour ces élections législatives, 332 partis politiques, de regroupements de partis politiques ou de candidats indépendants concouraient pour les 113 sièges à l'Assemblée nationale. Après le vote du 29 avril dernier, Yabré Dago, le président de la Commission électorale nationale indépendante, a donné les résultats provisoires.
Ces élections ont connu la participation de 2 565 623 électeurs pour 4 203 711 électeurs inscrits, soit un taux de participation de 61,03%. La répartition des 113 sièges se présente comme suit. ADI, 2 députés. ANC, 1 député. DMP, 1 député. FDR, 1 député. UNIR, 108 députés.
C'est donc le parti au pouvoir UNIR qui se taille la part du lion lors de cette élection législative. De quoi réjouir ses candidats et ses militants. Edem Achouapeli, de la jeunesse du parti UNIR, estime que les efforts fournis n'ont pas été vains.
Grande est notre joie au niveau de la jeunesse parce que tout ce que nous avons fait durant des jours de campagne et jusqu'au jour du scrutin, ça a porté de fruits. Nous sommes très contents. Notre joie est très immense même. Et nous sommes en train de préparer des activités pour pouvoir manifester ça.
Les partis de l'opposition qui avaient boycotté l'élection de 2018 et qui espéraient challenger le parti au pouvoir dans les urnes se sentent désabusés. Jean Kissi de la liste Arc-en-Ciel parle de fraude massive.
Il y a eu des élections avec des fraudes au Togo, mais ce qui s'est passé cette année, on n'a jamais vécu ça. C'est qu'on est arrivé à un niveau où les faits et gestes qui sont posés causent un dégoût inimaginable et incalculable.
L'opposition parle aussi d'achat de conscience, d'intimidation et d'autres faits qui expliqueraient sa déroute lors de ces élections. Pour Sir Adomayakpor, analyste politique, les partis de l'opposition ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes.
Nous avons une opposition qui n'a pas changé son discours, qui n'a pas varié. Les visages sont les mêmes depuis 30 ans, 40 ans, avec les mêmes discours, les mêmes réflexes, les mêmes refus de reconnaître que la société togolaise évolue. C'est la démobilisation qui, en réalité, a commencé depuis 2020.
Le président de la commission électorale indépendante a indiqué qu'une fois les résultats provisoires annoncés, les différentes listes de candidats sont habilitées à saisir les juridictions compétentes pour faire valoir leurs droits et recours. Kossi Woussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Dans la région de l'extrême nord au Cameroun, les autorités locales sont engagées à soutenir les milliers de réfugiés nigériens résidant au camp de Minao en les encourageant à se tourner vers l'agriculture. Cette initiative vise à répondre à la diminution constatée de l'aide alimentaire destinée à cette population. Récemment, près de 150 hectares de terre ont été attribués aux réfugiés nigériens à Minao. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
77 000 réfugiés nigériens, d'après les autorités camerounaises, vivent dans le camp de Minao dans la région de l'extrême nord. Malgré le retour volontaire de près de 15 000 d'entre eux, ce camp connaît une surpopulation au moment où les partenaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ont rompu définitivement leur aide alimentaire. Face à cette situation, le gouvernement camerounais tente d'éviter un péril alimentaire pour ces réfugiés. Midi Awa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord.
Le chef de l'État informé a demandé que nous trouvions des voies et moyens pour les encadrer conformément aux conventions de Genève. Nous avons eu du terrain. Il y a 151 hectares qui sont déjà disponibles. 100 hectares seront mis à la disposition des réfugiés. Nous avons des tracteurs mis à notre disposition par le PNUD.
Dans les deux prochaines semaines, à la faveur du retour des pluies dans cette partie aride du Cameroun, les autorités vont procéder à l'attribution des parcelles aux réfugiés. Midi Awa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord.
Présentement, les terrains seront déblayés. On va les organiser par famille, par affinité, Nous allons chercher la logistique pour les accompagner et viabiliser le terrain après avoir déblayé, faire des hangars, des forages et des toilettes pour leur permettre de séjourner. Au terme de ces processus, ils vont dégager ce qu'ils vont consommer et même mettre sur le marché le surplus. Ils vont même exporter vers leur pays d'origine, qui est le Nigeria.
L'annonce de cette initiative a trouvé un écho favorable auprès des réfugiés nigériens. Lucas Isaac, représentant des réfugiés nigériens du camp de Minao, dans la région de l'extrême nord.
Vraiment, c'est intéressant parce qu'on prend ça à le moment qu'on a besoin. Mais avec cette initiative, on va commencer à pratiquer.
Un accompagnement alimentaire sera néanmoins alloué aux réfugiés jusqu'aux récoltes. Pour les riverains du camp de réfugiés de Minao, ceux-ci bénéficient d'un programme de grenier communautaire grâce à l'ONG, le réseau de lutte contre la faim RELUFA. Salié Bouba, superviseur grenier communautaire du village Mbozo Kaye, dans la région de l'extrême nord.
Tout ce qu'on récolte ici, on stocke au grenier. On laisse jusqu'au moment où le mille commence déjà à finir sur le marché. Une partie, on part, on vend. L'autre partie aussi, nous laissons pour nous-mêmes.
Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, 1 million de personnes, dont 650 000 réfugiés, ont besoin d'une aide alimentaire au Cameroun cette année. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
À l'université d'Abomey Calvi au Bénin, le programme des Nations Unies pour le développement a établi un hub technologique et créatif appelé Unipod. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Timbuktu du bureau régional du PNUD pour l'Afrique. Pour plus de détails, nous retrouvons notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adonis.
Le Bénin est l'un des 16 pays à bénéficier de l'installation de l'Unipod dont le but est de transformer les universités publiques d'Afrique en des espaces d'innovation, d'expérimentation et d'apprentissage accéléré. Au cours de la cérémonie de lancement de cet espace au Bénin, Éléonore Yahi-Ladekan, ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, a souligné que l'innovation technologique constitue un moteur de dynamisation, de diversification et de croissance pour les économies touchant tous les secteurs de la vie économique.
Félicitations pour cette belle initiative qui est présente déjà dans une dizaine de pays africains et dont le seul et véritable but est d'appuyer les jeunes, les innovateurs et les porteurs d'idées novatrices dans l'accompagnement du processus de développement de leur pays. Son ouverture à tous les Béninois, qu'ils soient étudiants, innovateurs, entrepreneurs, artisans, enseignants, chercheurs, est d'une importance capitale et que le renforcement du dispositif technique et infrastructurel qu'apporte ce joyau constitue un défi auquel nous devons tous répondre.
Mise en place grâce au partenariat entre le PNUD et le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, l'Unipod Bénin s'intègre parfaitement dans une dynamique de complémentarité et entend renforcer la collaboration avec tous les acteurs de la formation, de l'entrepreneuriat et de l'écosystème de l'innovation, a déclaré pour sa part Awale Mohamed Abchi, représentant résident du PNUD au Bénin.
Il apparaît clairement que l'innovation s'alimente à une source privilégiée, celle du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Et c'est au sein des campus, des laboratoires, des organismes partenaires que la connaissance se renouvelle, s'actualise, s'affûte. C'est pourquoi le site universitaire représente l'échelle idéale pour penser, susciter et développer l'innovation. Ainsi, s'installer dans un campus, c'est se poster au cœur de la recherche, à l'avant-garde de la science, là où l'impossible d'aujourd'hui prépare l'usage de demain.
Dans cet espace, plusieurs programmes et curricula de formation de courte durée seront développés dans des secteurs clés comme ceux de l'énergie renouvelable, de l'artisanat, de la technologie, de l'agroalimentaire, du cadre de vie et de la mobilité. Le recteur de l'université d'Abomey Calavi s'en réjouit.
C'était à la vision de l'université d'Abomey Calavi, une pote Bénin arrive à point nommé et se présente indiscutablement comme un véritable levier de développement pour notre institution universitaire.
La cérémonie de lancement officiel de l'Unipod Bénin fut également une occasion pour le public de découvrir les innovations de plusieurs étudiants.
L'âge des années est transparent de manière à une machine qu'on va pouvoir monter sur des tracteurs pour qu'on pourra sur des volets moteurs.
Il faut dire que l'Unipod se dresse majestueusement sur un terrain de 2000 mètres carrés attribué au PNUD par l'université d'Abomey Calavi. De Cotonou, Ginette Fleur-Adonis pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manila Kiza à son micro. Lionel Manila Kalima a assuré la production et la réalisation. À la console, Nashwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée.